Marcel Mbombo, nous vous retrouvons dans ce studio afin de nous éclairer justement sur les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. Vous savez que en République démocratique du Congo, les personnes vivant avec le VIH-Sida se plaignent de ne pas bénéficier de la protection de l'État. Pour ces personnes, leurs droits ne sont pas garantis. Il y a de cela une semaine, plus d'une centaine d'entre elles ont marché jusqu'au Palais du Peuple. Objectif, demander au Sénat d'adopter la proposition de loi portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida et les personnes affectées. Mais bon nombre de gens se posent des questions. Comment cela évolue aujourd'hui? Nous allons parler justement avec notamment Jean Lukela, qui est le coordonnateur national du RENOAC-GS, autrement dit le réseau national des organisations d'assises de communautés et des groupes de support des PVVH. Et nous aurons également dans ce studio, comme à l'accoutumée, chaque lundi, vous savez que nous retrouvons Maître Dominique Camoindou de l'ONG Avocats sans frontières. Nous vous disons donc bonjour.
Bonjour.
Alors on va aborder cette question avec vous hein, tout à l'heure, mais d'abord le point avec vous Marcel, sans oublier de rappeler à nos auditeurs qui peuvent intervenir eux aussi au 081 070 20 50. Alors posons-nous des questions pour commencer, parce que la plupart des gens s'interrogent à ce sujet. Quels sont les droits et que dit la loi congolaise sur le droit des personnes vivant avec le VIH-Sida? Mais pour commencer, je crois qu'il est bon de savoir hein, ce que prévoit la législation actuelle sur les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida.
Voilà Nicole, selon les juristes que nous avons contactés, jusqu'avant l'adoption de la nouvelle loi sur les violences sexuelles, il n'y avait pas vraiment dans la législation congolaise des dispositions particulières par rapport au VIH-Sida, mais par l'entremise de cette nouvelle loi sur les violences sexuelles, il y a l'article 174 qui est clair, mais sur un seul point. C'est celui, bien entendu, sur la contamination délibérée d'une infection sexuellement transmissible à une tierce personne.
Alors, que dit concrètement cet article, l'article 174?
À ce sujet, Nico, je vous propose plutôt d'écouter Noël Kilomba, qui est juge au tribunal de grande instance de Njili. Lui, il nous parle de peine prévue à cet effet, c'est-à-dire lorsqu'il y a contamination délibérée d'une infection sexuellement transmissible à une tierce personne, mais il nous parle également des dispositions que la loi prévoit par rapport aux réparations civiles. On l'écoute.
Avec la loi sur les violences sexuelles, effectivement, l'article 174.i est tout à fait clair. Et dit que de la punition pénale à perpétuité est une amende de 200 000 francs congolais constants, quiconque aura délibérément contaminé une personne d'une infection sexuellement transmissible incurable. Donc, sans parler directement du sida, eh bien, la loi réprime l'effet de contaminer une personne volontairement d'une infection sexuellement transmissible incurable. Et là, on voit effectivement le bien sida. Donc, effectivement, la loi réprime les contaminer quelqu'un volontairement d'une infection sexuellement transmissible, effectivement incurable. Ici, c'est le sida. Alors, un autre aspect, c'est sur les réparations civiles. Il n'y a pas de modification de la loi ou d'adaptation à l'évolution. Quand nous faisons une étude comparée avec le droit français, nous avons dans notre Code civil libre 3, l'article 259, qui dit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Et cet article 259 du Code civil congolais libre 3 est le correspondant de l'article 1383 du Code civil français, qui dit pratiquement la même chose. C'est-à-dire que lorsque on transmet le sida, soit volontairement, soit par imprudence, on doit réparer ses préjudices. Et là, les victimes ont droit à une action en réparation de ce dommage causé au niveau du tribunal civil.
Voilà qui est un peu plus clair, hein, Marcel Ngombo. Nous avons retenu particulièrement ceci, c'est que toute personne qui contamine volontairement une autre personne sera condamnée à perpétuité. Hein. Et c'est ça qui révolte les personnes vivant avec le VIH-Sida.
Bien au contraire, Nicole, par rapport aux personnes qui vivent avec le VIH-Sida, leur souhait est que la loi soit plutôt renforcée uniquement par rapport au VIH-Sida. Au VIH-Sida, là, vous avez suivi, c'est par l'entremise de la nouvelle loi sur les violences sexuelles, où il y a une clause qui parle de la contamination délibérée d'une infection sexuellement transmissible. Or, le sida fait partie de l'infection transmissible. Oui. Et voilà pourquoi le sida se retrouve dans cette clause-là. Oui. Mais pour les personnes vivant avec le vrai sida, on va directement entrer dans les droits qu'ils réclament. Vous voyez que la loi soit plutôt renforcée. On peut prendre l'accès au traitement, par exemple, pour les personnes qui vivent avec le vrai sida. Il y a aujourd'hui, le chiffre est pas de 200 000 personnes éligibles au traitement antirétroviral.
En RDC.
En RDC, qui doivent avoir accès à ce traitement. Mais voilà qu'il y a à peine quelques 10%, c'est autour de 20 000 qui ont accès. Mmh. Donc pour les personnes vivant avec le sida, là également, il faut que l'État s'implique vraiment et que cela soit coulé sous forme de loi, c'est-à-dire que ces personnes doivent avoir obligatoirement accès au traitement. Autre réclamation de personnes vivant avec le sida, là par exemple la stigmatisation, on le sait, et souvent c'est un grand problème pour ces personnes lorsque... Quelque part, tout le monde sait que cette personne souffre du VIH/SIDA et ils ne sont pas toujours souvent bien acceptés au sein de la population. Et là encore, c'est un problème pour ces personnes. Ils auraient souhaité que la loi soit claire là-dessus, sauf qu'il y a un cas de stigmatisation, que la loi frappe. Comme ça, avec le temps, les gens vont comprendre que les personnes qui vivent avec le VIH/SIDA sont comme toutes les autres personnes et qu'ils ont droit des égards et surtout, ils doivent être protégés. Donc c'est un peu tout ça que le PSDV réclame au niveau de cette proposition de loi, qui en principe a été approuvée par l'Assemblée nationale, et qui doit ensuite passer en proposition au Sénat, ce qui a été l'objet de leur marche. Écoutez quelques réactions recueillies par notre confrère Fatima Fouque lors de cette marche.
Bon, papa, là, ce qui m'a levé aux ânes à Sido, pour ça, la terre, même là, le parc, ce qui m'a levé aux ânes à Sido, pour foutre la terre, va dire, ma campo, déjà très difficile, hein, de mettre ça, lui marche, boy. Ce qui m'a moigné, bah, il s'appelle comme une cité. Bon, ami, il y a un autre, il y a un autre, bah, c'est la terre, bah, tu bats, il y a un autre, bah, c'est la terre, bah, poto, comme la boy. Bah, on va vous copier cet exemple à Malam, exemple, il va copier sa bise à travers le pays, où tout ça, en Congo.
Je suis ici de la communauté. Et puis je suis abandonné, je suis aussi né à coucher, je travaille à Bandundu. Et puis je suis exclu de ce cas de la communauté de service. Je suis licencié aussi de service et je ne travaille pas.
C'est vrai que tout ce qu'ils ont affirmé est vrai, hein, dans bien des cas, lorsqu'on apprend que vous êtes personne vivant avec le VIH-SIDA, séropositif, automatiquement, on vous indexe, on vous écarte, vous êtes stigmatisé en fait. Hein. Nous invitons tous ceux qui nous suivent à travers le pays, vous êtes concernés par ce dossier, vous êtes personne vivant avec le VIH-SIDA, nous aimerions avoir votre point de vue là-dessus, autrement dit, votre intervention. Si vous souhaitez témoigner, faites-le. Voilà, ce numéro de téléphone, c'est le 081-890-63-94. Si vous n'avez pas suffisamment d'unités dans votre portable, nous avons la possibilité de vous rappeler. Donc, il ne faut pas bipper, hein, s'il vous plaît. Rappelez-nous, comme ça, nous, appelez-nous, hein, comme ça, nous, on aura la possibilité de vous rappeler. Alors, Marcel, est-ce qu'il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui soutiennent les PVV dans cette démarche?
Ça, bien sûr, ça ne peut pas manquer. Nous citerons, par exemple, l'ONG du nommé TMC. Il faut dire que grâce à l'intervention de cet ONG, une dame a pu conserver son travail pour la petite histoire, Nicole. Cette dame travaillait au Bas-Congo dans une société de la place. Et comme elle devait suivre son traitement anti-rétroviral ici à Kinshasa, ses employés ne voulaient pas la libérer pour suivre le traitement à Kinshasa. Voilà encore notre problème. C'est pas partout qu'on a accès au traitement. Lorsqu'on attrape, par exemple, le VIH/SIDA dans un coin perdu de la République, ok, on doit avoir accès au traitement anti-rétroviral. Lorsque sur place, on ne peut pas avoir un centre où on peut être suivi par ce traitement, on vient à Kinshasa. C'était le cas pour cette dame qui devait venir à Kinshasa. Et c'est là, les employés ne l'entendaient pas de cette soirée. Elle avait à faire le choix entre son travail et venir ici à Kinshasa. Et grâce à l'intervention de cet ONG, la femme a finalement pu conserver son travail, mais ici à Kinshasa. Mais de quelle manière, suivant les explications de M. Jean Kalombo, coordonnateur de l'ONG du nommé TMC.
Nous avons des cas dans de grandes entreprises où nous sommes allés et nous avons intervenu et que ces gens ont été réhabilités dans leurs droits. Nous avons connu ces cas avec une entreprise de la place que je ne saurais pas si. En fait, la dame en question allait même perdre sa promotion, même au travail, parce que lorsqu'elle a demandé, même le CTA avait renvoyé de manière, parce que vous comprenez que la trithérapie n'était pas utilisée au fin fond du village, donc je voudrais parler là dans le province. Mais curieusement, là on était dans le Bas-Congo, ça date un peu d'un temps, parce que c'est tout à l'heure là qu'on trouvait solution, parce que le CTA avait envoyé des attestations médicales qui demandaient à ce que la dame puisse poursuivre son traitement ici à Kinshasa. Mais curieusement, la société récitait toutes les quatre attestations leur envoyées. On devait réagir afin que cette dame soit réhabilitée dans ce droit. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à avoir même le PCA de cette entreprise. Nous sommes allés plus loin, parce que lorsqu'on ne voyait pas la réaction, le gouvernement a réagi, tout a été respecté hein, par notre voix. On a accordé, la dame est ici à Kinshasa, elle travaille.
Elle travaille maintenant ici à Kinshasa.
C'est parce que la société a également une filiale ici à Kinshasa. Et grâce à l'intervention de cette ONG, et surtout parce que là, on n'a pas voulu chercher à citer qui est intervenu, mais du gouvernement, pour faire comprendre à ses employeurs qu'il n'y avait pas de problème, puisque la dame doit suivre son traitement ici, pourquoi ne pas la caser à Kinshasa, comme ça peut être son traitement. Là, c'est un des droits qui réclame le PDG, c'est-à-dire qu'il y ait protection par rapport à leur situation, que la loi soit un peu... souple hein, lorsqu'il s'agit d'un tel problème qu'on puisse trouver une solution pour les personnes qui souffrent.
Ce n'est pas parce qu'on est personne vivant avec le VIH-SIDA qu'on est malade. Hein, ce n'est pas ça, Marcel Ngombo. Raison pour laquelle ces gens-là réclament la protection de leurs droits. Nous allons parler justement avec notre invité, hein, notre Dominique Amando de l'ONG Avocats sans frontières. Mais retenez que nous avons également Jean-Luc Kella du réseau national des organisations d'assises communautaires des groupes de support de PDV, autrement dit des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Si vous souhaitez vous aussi participer à cette émission, vous êtes les bienvenus, hein, auditeurs de Radio Capi, nous essayons de vous le dire, vous pouvez nous appeler pour témoigner et envoyer des SMS au 081 070 20 50. Vos questions sont aussi les bienvenues. Marcel Ngombo, on va s'arrêter là, n'est-ce pas?
C'est bon, Nicole, merci, au revoir
à
tous.
Alors, à la prochaine.
Merci.
Pourquoi pour que la paix ne soit pas qu'une religion. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, la lutte contre le sida constitue l'une des priorités nationales dans le domaine de la santé, mais pour bon nombre de personnes vivant avec le sida, l'État ne protège pas leurs droits. Vous avez suivi les témoignages de certaines personnes que nous avons proposées tout à l'heure. On va à présent faire le point avec nos invités. On va d'abord donner la parole à Jean-Luc Kella en tant que coordinateur de ce réseau. Hein. Alors, Jean-Luc Kella, je crois que nous avons suivi l'essentiel, mais peut-être que vous aurez aimé compléter ce que Marcel Ngombo a eu à nous dire tout à l'heure.
Merci. Vraiment, Marcel a fait notre avocat. Il a bien parlé et tout ça. Bon, le problème sur cette loi se pose à quel niveau? Au niveau de l'article 43, où on dit condamnation à perpétuité. Quand on a dit ça, j'ai vu la journaliste en train de bouger la tête. Ah, c'est bien. Mais il y a un problème.
Lequel?
Le problème, c'est celui-ci. Même où c'est à Madagascar, on a voulu voter la même loi. Mais les gens ont trouvé ceci. Malheureusement, je n'ai pas mes lignes qui à le lire, mais je vous le dis. Ils ont dit que condamner les gens à perpétuité, peut-être peut réduire encore les gens dans la clandestinité, qui ne vont même pas faire les dépistages volontaires, pour dire que parce qu'il est difficile, madame, de vérifier qui a contaminé qui. Et qui a été sur un CP, qui? Parce que c'est difficile. Juridiquement, je crois que le maître est là. Vraiment, je ne sais pas où la personne qui acquise devrait déjà faire un pré-test avant l'accusation, présentant un document.
C'est difficile, hein?
C'est difficile.
C'est vraiment difficile. Mais reconnaissez tout le monde qu'il y a eu des cas, hein, Jean-Luc est là. Oui. Les gens qui ont contaminé volontairement. Ils connaissaient leur état, mais ils ont contaminé quand même l'autre.
Ben, c'est ça aussi le problème. Madame, en matière de sida, le PDG a été évolué. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de médicaments pour la prolongation de la vie, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas de groupe comme nos groupes, il n'y avait pas de PDG qui se mettaient ensemble et pour se sensibiliser, pour dire écoute.
C'était encore un problème tabou.
Oui, pour dire aux autres qu'écoute, si tu veux être sauvé, il faut d'abord sauvegarder les autres. Vous voyez, si vous protégez les autres, Dieu te protégera. Mais si vous ne protégez pas les autres, Dieu ne te protégera pas. Et c'est pour cela qu'à Madagascar, après avoir voté cette loi, ils ont dit que non, ils sont revenus pour dire.
Ah, malheureusement, on ne condamne pas ceux qui
commettent volontairement. Mais à partir de 4 mois, donc 6 mois à une année. Mais ici, on dit la perpétuité.
Mmh.
Voici là où blesse l'Oba. Nous disons non.
Mmh.
Hein, parce que si on dit que c'est la perpétuité, bien, nous, on ne dit pas que c'est bien de contaminer.
C'est tout ce qu'on fait là.
Quelqu'un volontairement. C'est pas bien.
Oui, d'accord. On sait une chose, hein, Jean-Luc, c'est tout cet aspect des choses qui effraient les personnes vivant avec le VIH-Sida. Mais que dites-vous de la stigmatisation faite aux personnes vivant avec le PVV?
Bon, c'est ce que je dis, madame la journaliste, c'est tout en votant cette loi, cet article-là, va favoriser encore la stigmatisation et la discrimination. Et alors, le PVV, les gens. Ne va pas favoriser la lutte contre le VIH-Sida, mais c'est plutôt la régression. Pourquoi les d'autres personnes n'iront pas faire les dépistages volontaires, ou quelqu'un peut-être ne vont pas sortir de la clandestinité.
Mais ce qui est sorti de toute façon, à entendre votre discours, c'est comme si le législateur ne vous a pas consulté, vous, les réseaux qui travaillaient dans ce secteur-là.
En tout cas, monsieur, moi, j'ai juste 30 ans, c'est pas le législateur, tout d'abord, nous avons fait un atelier. Au centre Lindongo. On a travaillé sur ça.
Avec
je me suis levé contre cet article.
Mais quand vous dites, nous avons fait un atelier, qui était présent dans cet atelier?
Dans cet atelier, il y avait même un député, et puis il y avait, comment on appelle ça, les femmes avocates, hein, et puis il y avait des avocats, il y avait les gens du ministère, tout ça.
Il y avait aussi des associations qui travaillent dans la lutte contre...
Dans la lutte contre le VIH-Sida. Et puis nous-mêmes le PVV.
Alors la majorité a primé, donc tout le monde était d'accord avec
la majorité a primé qu'il a fallu condamner, mais on n'a pas dit à perpétuité.
Ah, c'est l'erreur.
Oui, c'est à peine.
C'est l'erreur que vous avez eu à faire.
On a dit pas, on peut condamner peut-être comme le saute de 6 mois à une année ou 2 ans, je ne sais pas moi. Mais quand on parle de la perpétuité, je vous dis que c'est difficile que quelqu'un, tout d'abord c'est difficile à prouver, qu'est-elle à infecté-t-elle, parce que quelqu'un peut aussi, si une femme peut se lever demain matin, dire que non, cette personne-là m'a infecté. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que elle sait que si je dis ça, je vais... Ça arrive, ce sont des problèmes.
En tant que coordinateur, vous avez déjà eu à vivre ce genre d'incident, une personne qui dit avoir infecté une autre et qui ment?
Oui, j'ai déjà vu ça. Dans mon organisation, j'ai déjà vu ça. Une maman est venue nous dire, écoutez, on m'a infecté, ce jeune homme-là m'a infecté tout ça. On a fait les examens, on a vu que la personne n'était pas infectée. Elle était seule. Pourquoi le problème était lequel? Parce qu'elle a cohabité avec le monsieur. Et le monsieur lui a dit que non, écoutez, moi maintenant, je suis infecté. Je ne peux pas continuer avec toi. Comme je suis infecté, je ne peux pas continuer avec toi pour te protéger. La femme a accompli ça.
Donc c'était autrement. Un pour se débarrasser de la femme.
Pour se débarrasser de la femme. Et puis, la femme a dit, bon, comme tu m'as infecté, moi je vais t'accuser et patati patata.
Oui, maître Dominique Lamando, vous avez un regard là-dessus, n'est-ce pas, en tant qu'avocat, au niveau de l'ONG Avocats sans frontières. Comment vous comprenez cet aspect des choses? Est-ce que la réclamation faite par les personnes vivant avec le PVV, les personnes vivant avec le VIH-Sida, est-ce qu'elle est fondée?
Merci beaucoup, Nicole. Nous devons d'abord faire la part des choses. Cette loi ou la disposition dont on est en train de parler tout à l'heure concerne la protection des victimes des violences sexuelles. Donc là, l'esprit du législateur est de lutter contre les violences sexuelles. C'est différent de la proposition de loi qui est en étude qui concerne la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous connaissons tous l'ampleur des violences sexuelles aujourd'hui. Les femmes sont violées par milliers à travers le pays. Le législateur a voulu prendre des décisions ou donner un signal fort pour pouvoir lutter contre les violences sexuelles. Comment cela peut être? Je pense que dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles ou de la répression des violences sexuelles, je pense que cette disposition vaut de la peine parce qu'il y a des personnes qui se savent infectées, mais qui prennent le risque d'aller violenter les femmes dans leur dignité, d'aller prendre des forces les femmes pour avoir des relations sexuelles avec les femmes. Ces personnes, d'abord, sur l'intégrité physique de ces femmes, sur leur dignité et en plus les infecte. Je pense qu'à ce niveau-là, le taux de la peine peut se justifier. Et cela peut être facilement prouvé dans ce sens que lorsque une personne vient d'être infectée et que cette personne se rend à l'hôpital, l'auteur de la violation est identifié. Devant le parquet, le magistrat peut requérir un médecin pour qu'on fasse des examens appropriés. Nous savons, nous ne sommes pas, je crois que peut-être les avis d'un médecin, de laborantin pourront nous éclairer davantage. Nous savons que lorsque une personne vient d'être infectée, ce n'est pas un jour, deux jours après qu'on retrouve, quand on fait les tests, qu'on retrouve qu'elle est infectée. Donc, dans ce sens-là, on peut facilement savoir que telle personne qui a le virus, lorsque l'auteur est identifié et qu'on a procédé au test, on peut savoir qu'après tel acte de viol, il y a beaucoup de risques que la victime soit infectée. Dans ce cas-là, on peut arriver à réprimer.
Il s'agit de quelle matière juridique ? C'est une matière civile ou...
Non, là, nous sommes en droit pénal parce que la loi sur les violences sexuelles est venue modifier et compléter les dispositions du code pénal ordinaire.
Dans bien des cas, avant, ce n'était pas prévu en droit pénal. Donc, c'était une nouveauté.
Effectivement, c'est depuis la loi de 2006 que cette nouveauté a été intégrée dans l'arsenal juridique congolais. C'est une innovation du droit pénal congolais.
Mais alors, la procédure maintenant, on se présente devant un greffier ou on se présente devant le magistrat et par la suite, qu'est-ce qui se passe?
En principe, là, on est en train de parler de la situation des victimes de violences sexuelles. Lorsqu'on est victime, on peut aller à la police, on peut aller au parquet pour se plaindre et il est aussi conseillé d'aller, de se présenter dans un centre médical dans les 72 heures qui suivent pour procéder aux examens appropriés.
Juste une précision. On n'est pas victime d'une violence sexuelle, mais on a été contaminé volontairement.
Effectivement, là, on doit se plaindre au niveau du parquet ou à la police. Et lorsque l'auteur est identifié, l'auteur va requérir l'avis d'un médecin, des examens appropriés pour savoir si on peut déterminer à partir de quand on a été contaminé et pour savoir qui a contaminé qui. Parce que là aussi, il y a un problème. Si la personne a des partenaires multiples, il est difficile de savoir d'où est venue la contamination ou l'infection qu'elle a eue. Donc, c'est une matière très importante qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'enquêtes pour pouvoir arriver vraiment à déterminer avec précision l'auteur.
La peine pourrait être revue, peut-être à la baisse. Au lieu de condamner une personne à perpétuité, on va la condamner peut-être.
C'est le législateur qui détermine la peine en fonction de la politique judiciaire en fonction de la politique et des objectifs que la loi s'est assignée.
Alors, au cas où il y a diffamation, il y a mensonge, est-ce que le législateur protège également l'accusé?
Effectivement, le code pénal congolais prévoit des infractions d'imputation dommageable, des dénonciations calomnieuses, c'est parce que le code pénal a des valeurs morales de la société qui sont protégées. Et en réprimant ces infractions comme l'imputation dommageable, c'est-à-dire le fait de dire que telle personne a le sida, m'a infecté, si cela ne s'avère pas vrai, cette personne a été victime des violations de ses droits, peut aussi se plaindre pour obtenir réparation et la personne qui a fait des imputations peut être condamnée.
Mais même si les personnes vivant avec le VIH peuvent aussi être condamnées.
Effectivement, les personnes vivant avec le VIH peuvent aussi être condamnées lorsque, comme les cas que nous avons, dont nous a parlé tout à l'heure Monsieur Jean, qui dit qu'une personne vivant avec le VIH est allée faire une dénonciation calomnieuse vis-à-vis d'une personne en disant que cette personne l'a infectée. Si cela s'avère vrai, cette personne vivant avec le VIH peut être poursuivie et condamnée aussi.
Oui, mais la condamnation, ça ne se limite pas à une personne qui contamine l'autre volontairement. Nous avons également eu à cibler tout à l'heure un autre problème pour toutes ces personnes qui évoluent aujourd'hui dans des entreprises qui sont malheureusement personnes vivant avec le VIH-SIDA. Il arrive, Jean Lequel est là, il peut témoigner, il arrive que ces personnes soient écartées tout simplement parce qu'elle est séropositive, n'est-ce pas Jean Lequel là?
Certainement, comme je crois que vous avez suivi le président de TMC,
c'est une organisation qui travaille avec nous. Tout le temps, quand nous avons des problèmes, c'est lui qui va nous chercher des avocats. Tout ça. Nous avons beaucoup de problèmes. Même chasser des parcelles. Hein, le monsieur est mort, la dame est restée. On vient, on chasse la personne qui d'abord c'est toi qui as tué notre père, parce que tu as le sida, tout ça, patati patata. On la chasse de la parcelle avec les enfants, tout ça. Hein, c'est tout un problème. Et c'est le problème que le législateur doit surtout traiter, au lieu de voir que la perfidité, la perfidité.
Oui, mais les devants sont là, il ne faut pas non plus oublier cela. Les devants sont, parce que comme l'a dit Maître Dominique, il y a aussi des gens qui violentent. Il y a des cas de violence. Et ça, on ne peut pas laisser passer ça.
Madame, écoutez, comme je crois que l'avocat venait de nous dire ici qu'il y a la violence sexuelle, et puis il y a quelquefois l'union sexuelle ou l'acte sexuel librement consenti entre des personnes, malgré qu'il y ait contamination, tout ça, mais il n'y a pas eu violence.
Mm.
Les gens se sont entendus, tout ça, ou l'autre peut-être trahi le malin de ne pas dire à l'autre, écoutez, moi je suis ceci, je suis cela.
Et pourtant il le savait.
Pourtant il le sait.
Mais il ne l'a pas dit.
Il l'a
contaminé volontairement.
Ça c'est autre chose. Ça c'est autre son de cloche. Mais lui, il n'a pas violenté. Mais c'est plutôt, c'est un acte librement consenti entre
les deux. Mais à votre niveau.
J'ajoute aussi quelque chose, madame.
Allez-y.
Et puis aujourd'hui, l'État est en train de débourser de l'argent pour la sensibilisation. Où on sensibilise, on dit attention aux partenaires occasionnels. Quand il y a partenaire occasionnel, protège-toi, tout. Oui, et malheureusement, cette personne-là ne veut pas écouter. Elle vient et trouve un type qui lui dit, bon, écoutez, je vais aller avec toi sans préservatif, tout ça. Et si c'est un homme, il se donne à cette femme-là. Si c'est une femme, sans protection. Mais la responsabilité est partagée.
Oui, mais ma crainte va être devenue qu'aujourd'hui, parce que, encore ce que vous avez dit, une personne vivant avec un handicap, vivant avec un handicap, est condamnée, et doit purger sa peine dans un centre pénitentiaire. Aujourd'hui, nous connaissons l'état dans lequel se trouvent nos centres. C'est vraiment un miroir. Et quand on va encore mettre une personne vivant avec un handicap, est-ce que ça arrive avec. Alors, disons, personne vivant avec le VIH, disons dans la même cellule ou dans les mêmes patients avec les personnes soi-disant saines, n'est-ce pas là un danger également?
Bon, moi je pense que les dangers ne se trouvent pas à ce niveau-là, mais les dangers se trouvent au niveau de la prise en charge de cette personne pour des soins de santé appropriés qu'elle doit suivre. Mais si on dit dans une prison qu'on fait une cellule à part pour les personnes
c'est de la stigmatisation, c'est de la discrimination.
Là, on est en train de violer les droits des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Mais si la personne qui est infectée est en bonne santé, doit suivre les traitements appropriés, et si cette personne commet une infraction et qu'elle est jugée et condamnée, on la place en prison comme tous les citoyens, mais on veille à ce qu'elle puisse avoir accès aux soins de santé appropriés.
Mm.
Là, c'est une autre chose pour éviter ce qu'on a, ce qu'on dit, la stigmatisation. On va en parler lorsqu'on va parler des droits spécifiques des personnes vivant avec le VIH.
Mais est-ce que le législateur a prévu, disons, en termes chiffrés, la réparation dommage et intérêt, c'est autour de combien à peu près, si vous avez...
En principe, la réparation du dommage et intérêt, la réparation est évaluée selon plusieurs critères. On voit l'âge de la personne, on voit ses fonctions, on voit l'espérance de vie qui est là. On ne peut pas dans une loi déterminer d'emblée un montant spécifique. On risque de se retrouver en deçà ou au-delà du dommage réellement subi. L'appréciation du dommage intérêt est laissée à l'appréciation du juge et il y a plusieurs
critères.
Oui, mais si le juge exagère, la victime ou la personne qui a été condamnée peut aller en appel pour qu'un réexamen soit fait sur le sujet, oui, sur le dossier.
Oui. Jean-Luc, là, on en profite pour vous poser une autre question, hein, toujours dans ce domaine. Nous avons suivi tout à l'heure Marcel qui nous a dit qu'il y a 200 000 personnes vivant avec le VIH qui sont éligibles aujourd'hui pour le traitement antirétroviral, mais il n'y a que 20 000 qui ont accès à ce traitement. Alors, vous, à votre niveau, en tant que coordonnateur de ce réseau, quels sont les efforts que vous entreprenez pour que les autres aussi soient et puissent avoir accès au traitement?
Bon, madame, dans le cadre de l'ICOP+, nous faisons des ateliers. Nous faisons un lobbying fort récemment. Il y a même le président de l'ICOP Plus est parti sous sa direction déposer les médicaments à Bandung. Plus précisément à Kikwit, parce qu'il n'y en avait plus. Nous sommes en train de faire un effort pour que le médicament arrive là-bas. Et pourquoi les médicaments n'arrivent pas dans tout le coin? Parce que nous dépendons de l'extérieur, madame. Parce que si vraiment notre pays était conscient et que les gouvernements étaient conscients, devaient disponibiliser les médicaments partout. Prenons le cas de Pharmacina, par exemple. Pharmacina a fabriqué les ARV qui sont là. Mais on dit pour les commercialiser, il faut un certificat de prévalidation.
C'est-à-dire, c'est quoi ça, un certificat de prévalidation?
Un certificat qui autorise la vente de médicaments qui doit être mis sur marché. Vous voyez? Eh bien, jusqu'à présent, on nous dit que c'est 10 millions ou 5 millions qui manquent à la République démocratique du Congo pour qu'on puisse, pour que Pharmacina puisse fabriquer les médicaments. Et puis, avec Pharmacina, nous serons libres. Au lieu de dépendre de l'Inde, les médicaments que nous utilisons ici, les ARV, proviennent de l'Inde, du Pakistan et des autres. Et pour ça, nous avons des potentialités pour le faire. Nous faisons un lobbying, nous travaillons quelque chose sur les IO même. Il y a même fait les ARV que vous entendez. C'est bon, bien, on les donne comme on les veut. Mais après, il y a des effets secondaires qui tuent. Hein? Vous donnez les ARV comme des arachides, vous laissez la personne partir, sans calculer les conséquences qui en découlent. Parce qu'il y aura des effets secondaires que vous n'allez pas gérer, et puis la personne reste à la maison, et elle ne sait pas où taper la tête.
Et dans ce cas, le législateur est retenu, il n'a pas évoqué cet aspect, sinon il doit aussi condamner des gens qui tuent, parce qu'il y a des effets secondaires, comme vous l'avez dit.
C'est ça, il y a des effets secondaires, et quelquefois la personne est abandonnée au coin d'une... Moi, je vais souvent voir le PDG, vous arrivez là-bas, vous trouvez les parents, même vous interdit d'aller le voir. Je dis, mais non, je le vois, parce qu'on me suit. J'entre. Vous trouvez la personne au coin là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? On vous dit, elle ne mange pas, elle ne veut pas bouger, elle ne veut pas faire ceci.
Elle est malade.
J'appelle l'ambulance de MSF Belgique parce que nous sommes en partenariat avec MSF Belgique, avec Cordaigue Basse qui nous donne nos moyens pour la nutrition. Et puis,
Donc vous êtes très soutenus, hein?
Oui, ils sont très soutenus. Nous avons Cordaigue Basse, une ONG hollandaise. Nous avons MSF Belgique, une ONG belge. Et puis, dans le cas de l'ICOP Plus, nous avons aussi Christianet, nous avons...
Il y a beaucoup d'ONG qui vous soutiennent dans les efforts. Mais puisque là, puisqu'on en parle, comment ça évolue au niveau du Sénat? Vous avez eu dernièrement à descendre sur le terrain, à revendiquer vos droits, et vous êtes allé jusqu'au niveau du Sénat. Comment ça a évolué?
Bon, madame, nous sommes descendus jusqu'au Sénat, arrivés au Sénat, on nous a dit, mais non, vous devez... on n'a fait pas, et il faut vous dire franchement que les mémos n'étaient pas là. Parce que nous, on voulait voir...
Donc, vous êtes allé sans mémo.
Oui, nous avons voulu voir le président...
Sans mémo.
Oui, parler avec lui. Parce que si on est... Nous, on croyait que si on va avec les mémos, on va vous dire, non, donnez les mémos, vous partez, vous attendez. Mais nous, on voulait voir...
Et vous l'avez dit
pas. Non, on l'a pas dit, malheureusement. Pour nous, on arrive, on nous dit, mais non, c'est les protocoles du Sénat, nous dit, mais non, ce n'est pas aujourd'hui, repasser les mercredis. Les mercredis, non, la loi est repoussée, elle sera révisée. Ainsi de suite, jusqu'à présent, on ne sait pas encore.
Il n'y a pas eu d'évolution.
Il n'y a pas eu d'évolution.
Donc votre marche a accouché d'une souris, finalement.
Bon, nous pouvons dire que c'est ça, accouché, mais il y a quand même les gens qui nous soutiennent. Qu'est-ce que je veux dire? Les sénateurs ont été sensibilisés. Il y a ceux qui disent que nécessairement, la loi protégeant les personnes vivant avec les sida est urgente.
Allez, on va se quitter. Il y a eu plusieurs réactions. Hein. Ouais. C'est pour dire que vous êtes très suivi. Ouais. Depuis Katanga, il y a un auditeur qui dit pour les employeurs, il faut que la loi les autorise à exiger les examens de sérologie avant d'embaucher. Parce que c'est pas bon de prendre quelqu'un qui va tomber malade après 3 mois. C'est un auditeur qui le dit. Il y a une autre réaction d'un autre qui dit jusqu'à présent, il n'y a pas eu de médicaments pour soulager le sida. Pourtant, il y a le traitement, les antidépresseurs qui existent. Quel sort pour un infirmier qui n'informe pas une personne vivant avec le VIH-sida qu'elle est contaminée davantage? Est-ce que il y a
une condamnation?
Ça, c'est Ignace qui vous pose la question depuis que vous dites. Rapidement, que diriez-vous à Ignace?
Bon, je dis à Ignace ceci, que nécessairement, pas les infirmiers, mais les laborantins, oui, l'examen est fait par les laborantins. Les laborantins le passent à l'infirmier consultant. Mais l'infirmier consultant a le devoir de dire à la personne elle-même, pas une autre personne. Si c'est un enfant, dire à son tuteur. Mais si c'est la personne est majeure, c'est à la personne elle-même.
Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, ça les rend même plus malades, hein, dès qu'ils apprennent qu'ils sont séropositifs.
Oui, madame, ça c'est une réaction primaire. Dès que on vous dit d'emblée que vous êtes séropositif, nécessairement, ça va vous toucher.
En toute vérité, n'est pas bien à dire.
Il y en a devant une maladie incurable, mais il y a ce qu'on appelle les consignes. Alors, dans toute structure qui se respecte,
une manière
ils ont des agents sociaux qui sont là pour calmer la tension et travailler la personne pour lui dire que non, c'est une maladie comme toute autre, et voici les autres comme qui vivent.
Il y a beaucoup à dire, mais on peut tout dire aujourd'hui, on en reparlera prochainement. Hein, et nous rappelons que vous êtes le coordinateur national du réseau national des organisations d'assises communautaires, des groupes de support de PVVH. Nous disons également merci à Maître Dominique Amandé de l'ONG Avocat Association. Nous vous retrouverons prochainement dans cette émission. À la prochaine.
Merci. Merci, madame.